Les maladies et leurs conséquences abondent dans le monde, aussi quelle joie pour le croyant d'apprendre de la parole de Dieu qu'elle pourvoit aux moyens de guérir les malades. La Bible nous enseigne que la volonté de Dieu est de voir ses enfants en bonne santé. Saint Jacques n'hésite pas à dire que la prière de la foi sauvera le malade et que le Seigneur le relèvera. Que le Seigneur nous apprenne à écouter, à recevoir avec simplicité ce que nous dit sa parole. Remarquons d'abord que Jacques établit ici une distinction entre la souffrance et la maladie. Il dit au verset Jacques 5, 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ?» qu'il prie. Il ne dit pas ce qu'il faut demander dans ce cas-là, il dit encore moins qu'on doive demander d'être délivré de la souffrance. Non, la souffrance qui résulte de diverses causes extérieures est le partage de tout chrétien. Comprenons donc que le but de Jacques est d'engager le croyant éprouvé à ne demander la délivrance qu'avec un esprit de soumission à la volonté de Dieu, à demander avant tout la patience, qu'il considère comme le privilège du croyant. Jacques 1, 2-4,12, 5, 7,8. Quand viennent ces mots « quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Jacques répond tout autrement, il dit alors avec assurance que le malade peut demander la guérison, avec la confiance de la recevoir, et que le Seigneur l'écoutera. Il y a donc une grande différence entre la souffrance et la maladie. Le Seigneur Jésus a parlé de la souffrance comme étant nécessaire, voulue et bénie de Dieu, tandis qu'il dit de la maladie qu'elle doit être guérie. Toute autre souffrance nous vient du dehors et ne cessera que lorsque Jésus triomphera du péché et du mal qui sont dans le monde, tandis que la maladie est un mal qui est dans le corps même, dans ce corps sauvé par Christ, pour qu'il devint le temple du Saint-Esprit, et qui par conséquent doit être guéri aussitôt que le malade reçoit en lui par la foi l'action du Saint-Esprit, la vie même de Jésus. Plus tard je reviendrai encore sur ce sujet pour le développer davantage. Il suffit pour le moment d'attirer l'attention du lecteur sur la grande différence que fait l'Écriture entre la souffrance et la maladie. Quel est le conseil donné ici au malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. Dans ce temps-là il y avait des médecins, mais ce n'est pas à eux que le malade doit s'adresser. C'est aux anciens de l'Église qu'il doit avoir recours. Les anciens étaient alors les pasteurs et conducteurs des églises, appelés au ministère, non parce qu'ils avaient fait des études de théologie, mais parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, et bien connus par leur piété et leur foi. Qu'était-il besoin de leur présence auprès du malade? Le malade n'aurait-il pas pu prier lui-même? Ses amis aussi ne pouvaient-ils pas le faire? Oui, mais il n'est pas toujours si facile à chacun d'user de cette foi qui obtient la guérison, et c'est sans doute là une des raisons pour lesquelles Jacques veut qu'on appelle les hommes, dont la foi était ferme et sûre, en outre il devait représenter auprès du malade l'Église, l'ensemble du corps de Christ, car c'est la communion des croyants, entre eux qui engage l'Esprit à agir avec puissance, enfin il devait, à l'instar du grand pasteur des brebis, prendre soin comme lui du troupeau, s'identifier, avec le malade, comprendre ses mots, recevoir de Dieu le discernement nécessaire pour l'instruire et l'encourager à persévérer dans la foi. C'est donc aux anciens de l'Église qu'est confiée la guérison des malades, ce sont eux, les serviteurs du Dieu, qui pardonnent les iniquités et qui guérit les maladies, psaume 103, 3 qui sont appelés à transmettre aux autres les grâces du Seigneur, pour le corps et pour l'âme. Enfin vient une promesse plus directe encore, celle de la guérison. Plus tard nous répondrons à diverses questions qui se sont élevées à cet égard. Pour le moment, remarquons seulement qu'ici l'apôtre parle de la guérison, comme de la conséquence certaine de la prière faite avec foi. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Cette promesse doit stimuler chez tout malade le désir et l'attente de la guérison. Si on reçoit ces mots avec simplicité et tels qu'ils sont écrits, ne doit-on pas voir là une promesse illimitée, offrant la guérison à quiconque prie avec foi? Que le Seigneur nous apprenne à étudier sa parole, avec la foi d'un cœur vraiment croyant. Troisième jour, la prière de la foi. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Jacques 5, 15. La prière de la foi. C'est la seule fois que cette expression se trouve dans la Bible, et c'est à propos de la guérison des malades. L'Église a adopté cette expression, mais elle ne recourt guère à la prière de la foi que pour obtenir d'autres grâces, tandis que d'après les Écritures c'est, surtout pour la guérison des malades qu'on doit en user. Voici la première question qui se présente généralement l'apôtre, attend-il la guérison de la prière de la foi seule, ou bien devra-t-elle être accompagnée de l'usage des remèdes? Il sera facile de trancher la question, si on veut bien réfléchir à ce qu'était la puissance de la vie spirituelle de l'Église des premiers siècles, aux dons de guérison accordés aux apôtres par le Seigneur et renforcés ensuite par l'effusion du Saint-Esprit, acte 4, 30, 5, 15,16 à ce que dit Paul des dons de guérison par le même esprit, 1 Corinthiens 12, 9 à ce que précise ici Jacques qui va même, pour soutenir le lecteur dans l'attente de la foi, jusqu'à rappeler la prière d'Élie et son merveilleux exaucement. Jacques 5, 14-17, tout ceci ne dit-il pas clairement que le croyant doit attendre la guérison, en réponse à la prière de la foi uniquement, et sans adjonction de remède? Une autre question se présente encore: l'usage des remèdes exclut-il la prière de la foi? À ceci nous croyons devoir répondre non, car l'expérience d'un grand nombre de croyants nous montre qu'en réponse à leur prière, Dieu a souvent béni l'emploi des remèdes, et s'en est fait un moyen de guérison. Ici se formule une troisième question à examiner: quelle est la ligne de conduite à suivre pour éprouver le plus sûrement possible, et selon les volontés de Dieu, l'efficace de la prière de la foi? Sera-ce, selon que le veut Jacques, en laissant de côté tout remède, ou en usant des remèdes, comme le font encore la plupart des croyants? Sera-ce, en un mot, avec ou sans remède, que la prière de la foi obtiendra mieux les grâces de Dieu? Laquelle de ces deux voies sera plus directement à la gloire de Dieu et plus directement bénie pour le malade? À ceci n'est-il pas tout simple de répondre que si la prescription et la promesse de Jacques s'adressent encore aux croyants de notre temps, ils trouveront bénédiction à les recevoir telles qu'elles s'adressaient aux croyants d'alors et à s'y conformer de tous points, à n'attendre la guérison que du Seigneur lui-même tout direct, sans recourir en outre au remède. C'est en effet dans ce sens-là que l'Écriture parle en toute occasion de la foi efficace et de la prière de la foi. Soit les lois de la nature, soit les récits des Écritures nous montrent que souvent Dieu se sert d'intermédiaires pour agir et manifester sa gloire, mais soit par l'expérience, soit par les enseignements bibliques, nous savons aussi que sous l'empire de notre déchéance et de nos sens, nous sommes portés à attacher plus d'importance au remède qu'à l'action directe de Dieu. Il arrive même souvent que les remèdes nous préoccupent tellement qu'ils interceptent pour nous la présence du Seigneur et nous détournent de lui. Les lois et les forces de la nature, qui étaient destinées à nous ramener à Dieu, produisent alors le contraire. Voilà pourquoi le Seigneur, en appelant Abraham à être le père de son peuple élu, n'a point recouru aux lois de la nature? Romains 4, 17-21. Dieu voulait se faire un peuple de croyants, attachés aux choses invisibles, plutôt qu'aux choses visibles, et, pour les amener à cette vie de foi, il fallait leur ôter leur confiance aux moyens ordinaires. Aussi voyons-nous que ce n'est pas par les voies ordinaires tracées par lui dans la nature que Dieu fit passer Abraham, Jacob, Moïse, Josué et Gédéon, les juges, David et maints autres rois d'Israël. Son but était de leur apprendre par là à se confier uniquement en lui, à le connaître pour ce qu'il est, le Dieu fort qui fait des merveilles. Psaume 77, 15. Dieu veut en agir de même avec nous. C'est quand on cherche à marcher selon la prescription de Saint Jacques, à abandonner les choses visibles, pour saisir la promesse de Dieu et recevoir directement de lui la guérison demandée, qu'on découvre combien on attachait encore d'importance aux remèdes terrestres. Sans doute il est des chrétiens qui peuvent user de remèdes sans dommage pour leur vie spirituelle, mais le plus grand nombre d'entre eux sont portés à compter sur les remèdes, plus encore que sur la puissance de Dieu. Or le but de Dieu est d'amener ses enfants à une communion plus intime avec Christ, et c'est ce qui a lieu lorsque par la foi on se livre à lui comme au souverain guérisseur, comptant uniquement sur sa présence invisible. L'abandon des remèdes fortifie étonnamment la foi, la guérison devient alors, bien plus que la maladie, une source de nombreuses bénédictions spirituelles, elle fait réaliser ce que peut la foi, elle établit entre Dieu et le croyant un lien nouveau, qui commence en celui-ci une vie toute de confiance et de dépendance. Le corps alors se place aussi bien que l'âme, sous la puissance du Saint-Esprit, et la prière de la foi qui sauve le malade, nous amène ainsi à vivre d'une vie de foi affermie par l'assurance que Dieu manifeste sa présence dans notre vie terrestre. Quatrième jour, l'onction au nom du Seigneur. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant au nom du Seigneur? Jacques 5, 14. Loignant au nom du Seigneur? Ces mots ont donné matière à controverse. On a voulu en inférer que bien loin de prescrire le recours à la prière de la foi seule et sans remède, Saint Jacques avait au contraire mentionné l'onction d'huile comme un remède à employer, et que oindre au nom du Seigneur n'avait d'autre signification que celle d'enduire et de frictionner le malade avec de l'huile. Mais comme cette prescription s'étend à toute espèce de maladie, l'huile acquérait par là une vertu miraculeuse sur tous les maux. Voyons ce que nous dit l'Écriture de l'onction d'huile et quel sens elle attache à ces deux mots. Les Orientaux avaient la coutume de soindre d'huile au sortir du bain, dans un climat brûlant, c'était là un moyen de se rafraîchir. Nous voyons aussi que tous ceux qui étaient appelés au service de Dieu devaient être oints d'huile, en signe de leur consécration à Dieu et des grâces qu'ils devaient recevoir de lui pour accomplir leurs tâches. Aussi l'huile qui servait à oindre les prêtres, et le tabernacle était-elle considérée comme très sainte? Exode 30, 22-32, et chaque fois que la Bible parle de l'onction d'huile, c'est comme emblème de sanctification et de consécration. Nulle part nous ne trouvons dans la Bible la preuve que l'huile ait servi de remède. Une fois, sans doute, il est fait mention de l'onction d'huile à propos de la maladie, mais il est évident qu'elle figure là comme cérémonie religieuse et non comme remède. Dans Marc 6, 13, nous lisons que les 12 chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Ici la guérison des malades va de pair avec celle des possédés, l'une et l'autre résultant d'une vertu miraculeuse. C'était là le mode de mission que Jésus avait prescrit à ses disciples en les envoyant deux à deux. Il leur donnait le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Matthieu 10, 1, c'était donc le même pouvoir qui leur permettait soit de chasser les démons, soit de guérir les malades. Mais cherchons à découvrir ce que symbolisait l'onction administrée par les 12 disciples. Dans l'Ancien Testament, l'huile était le symbole du don de l'Esprit Saint. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Ésaïe 61, 1. Dans le Nouveau Testament, il est dit du Seigneur Jésus Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force, Actes 10, 38 des fidèles, il est dit aussi « Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. » 1 Jean 2, 20 « Parfois l'homme a besoin qu'un signe visible, parlant à ses sens, vienne à son aide pour lui faire saisir le sens spirituel et appuyer sa foi. » L'onction devait donc symboliser pour le malade l'action du Saint-Esprit qui opérait sa guérison. Et nous, avons-nous encore besoin de l'onction jointe à la prière de la foi? L'Écriture l'a prescrit, et c'est pour se conformer à ce qu'elle nous en dit que la plupart de ceux qui demandent la guérison reçoivent l'onction, non qu'ils la tiennent pour indispensable, mais pour se montrer disposés à se soumettre en toute chose à la parole de Dieu. Dans les dernières promesses que fit Jésus, c'est l'imposition des mains, et non l'onction qu'il prescrit comme devant accompagner la communication de la vertu de guérison. Marc 16, 18 « Lorsque Paul circoncit Timothée et contracta un vœu pour son propre compte, c'était montré qu'il n'avait pas d'objection à observer les institutions de l'ancienne alliance, tant que la liberté de l'évangile ne devait pas en souffrir. De même Jacques, à la tête de l'église de Jérusalem, fidèle à conserver autant que possible les institutions de ses pères, a continué l'usage de l'onction, le faisant sans doute sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nous aussi, nous devons donc l'envisager, non comme un remède, mais comme un gage de la vertu puissante de l'esprit, un moyen d'appuyer la foi, un point de contact et de communion entre le malade et les membres de l'Église appelés à loindre d'huile. Cinquième jour. Le péché et la maladie. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques 5, 15, c'est ici, comme dans d'autres endroits de l'Écriture, le pardon des péchés et la guérison de la maladie sont étroitement unis. Jacques déclare qu'avec la guérison, sera aussi accordé le pardon des péchés, et c'est pour cela qu'il veut voir la confession des péchés accompagner la prière qui réclame la guérison. Nous savons que pour obtenir le pardon de Dieu, la confession des péchés est indispensable, pour obtenir la guérison, elle ne l'est pas moins. Le péché non confessé fait obstacle à la prière de la foi, en tout cas il est à craindre que la maladie ne reparaisse bientôt, et voici pourquoi. Quand le médecin est appelé auprès d'un malade, son premier soin est de chercher à découvrir la cause du mal. S'il y parvient, le mal en sera plus sûrement combattu. Notre Dieu remonte aussi à la cause première de toute maladie, au péché. C'est donc de notre part la confession et de la part de Dieu le pardon qui enlève cette cause première, et qui permet à la guérison d'avoir lieu. Quand on cherche à obtenir la guérison par les remèdes terrestres, la première chose à faire est de trouver un habile médecin et de suivre exactement ses prescriptions, mais quand on recourt à la guérison par la prière de la foi, c'est avant tout et uniquement sur le Seigneur qu'il faut fixer ses regards en se demandant où on en est à son égard. Jacques nous indique donc ici une condition essentielle au retour de la santé, celle de confesser et d'abandonner le péché. La maladie est une conséquence du péché. C'est à cause du péché que Dieu la permet, c'est pour nous montrer nos fautes, nous en châtier, nous en purifier. La maladie est donc le signe visible du jugement de Dieu sur le péché. Ce n'est pas que le malade soit nécessairement plus grand pécheur que tel autre qui n'est pas malade. Au contraire, ce sont souvent les plus saints d'entre ses enfants que Dieu châtie, ainsi que nous le montre l'exemple de Job. Ce n'est pas non plus toujours pour réprimer telle faute facile à préciser, c'est avant tout pour attirer l'attention du malade sur ce qui reste encore en lui de l'égoïsme du vieil homme et de tout ce qui l'empêche d'avoir une vie entièrement consacrée à son Dieu. Le premier pas à faire pour le malade dans la voie de la guérison divine sera donc de laisser l'Esprit de Dieu sonder son cœur et le convaincre de péché. Après quoi viendront aussi l'humiliation, la décision de rompre avec le péché et la confession. Confesser ses fautes, c'est les déposer, comme Acan, devant l'Éternel, Josué 7, 23, les soumettre à son jugement, avec la ferme volonté de ne plus y retomber. Une confession sincère sera suivie d'une nouvelle assurance de pardon. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Quand on a confessé ses péchés, il faut recevoir aussitôt le pardon promis et croire que Dieu le donne réellement. La foi au pardon est souvent très vague pour l'enfant de Dieu. Il reste dans l'incertitude, ou bien il retourne à d'anciennes impressions, au temps où le pardon lui fut accordé pour la première fois, tandis que le pardon, qu'il saisira ainsi avec confiance, lui apportera vie et force nouvelle. L'âme alors se place sous l'efficace du sang de Christ, elle reçoit du Saint-Esprit la certitude que ses péchés sont effacés, et qu'ainsi il n'y a plus rien qui empêche son Sauveur de la réjouir de son amour et de ses grâces. Le pardon de Dieu apporte avec lui une vie divine, qui agit puissamment sur celui qui le reçoit. Quand l'âme a consenti à faire une confession sincère et qu'elle a obtenu le pardon, elle est prête à saisir les promesses de Dieu, il ne lui est plus si difficile de croire que le Seigneur relèvera le malade. C'est quand on se tient loin de Dieu qu'on a de la peine à croire, la confession et le pardon ramènent tout près de lui. Dès que la cause de la maladie a été éloignée, la maladie elle-même peut être arrêtée. Le malade alors n'a plus de difficulté à croire que si le Seigneur avait dû châtier le corps pour les péchés commis, il veut ensuite lui prouver son pardon et son amour. Sa présence se révèle, un rayon de vie, de sa vie divine, vient vivifier le corps, et le malade éprouve qu'aussitôt qu'il n'est plus séparé du Seigneur, la prière de la foi sauve réellement le malade. Sixième jour, la prière d'intercession. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5, 16, l'apôtre Jacques a commencé par nous parler de la prière des anciens de l'Église, ici c'est à tous les croyants, qu'il adresse ses mots priés les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Après avoir déjà parlé de la confession et du pardon, il ajoute encore « confessez vos péchés les uns aux autres ». Ceci nous montre que la prière de la foi, qui demande la guérison, n'est pas la prière d'un croyant isolé, mais qu'elle doit réunir les membres du corps de Christ dans la communion de l'Esprit. Sans doute Dieu exauce la prière de chacun de ses enfants, dès qu'il la lui présente avec une foi vivante, mais le malade ne possède pas toujours cette foi-là, et pour que le Saint-Esprit vienne agir avec force, il est nécessaire que plusieurs membres du corps de Christ s'unissent ensemble en réclamant sa présence. Nous avons besoin les uns des autres. Cette confession des péchés se fera de deux manières. D'abord, le malade confessera ses torts aux personnes envers lesquelles il en aurait eu et recevra leur pardon, en outre s'il avait été amené à voir dans tel ou tel péché commis par lui la cause de la maladie, et à la tenir ainsi pour un châtiment de Dieu, il devra reconnaître son péché devant les anciens ou frères en Christ qui prient pour lui et qui pourront le faire alors, avec plus de lumière et de foi. Cette confession sera aussi pour le malade une pierre de touche quant à la sincérité de son repentir, car il est plus facile de confesser ce péché à Dieu qu'aux hommes. Pour en venir à le faire, il faut que l'humiliation soit réelle et le repentir sincère. Il en résultera une communion plus étroite entre le malade et ceux qui intercèdent pour lui, et leur foi en recevra une vie nouvelle.